toutes et à tous, René avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour un nouveau magazine consacré aujourd'hui à la Chine. Je vous propose donc Ondes de Chine, émission spéciale aujourd'hui consacrée en partie à la catastrophe du Sichuan et aussi à d'autres choses plus ludiques, on va dire, avec les Jeux Olympiques de Pékin et notamment avec un jeune pongiste de Villeneuve-d'Ascq qui nous rejoindra dans quelques instants. Donc pour l'instant autour de la table, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Callens qui est responsable du secours populaire du Nord. Bonjour Jean-Louis Callens.
Bonjour, bonjour.
Nous avons également Pierre et Clément qui font partie de l'atelier radio de Radio Campus, donc atelier avec les étudiants chinois de Lille. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour Clément.
Bonjour.
Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Nîmes, donc, qui est compositeur, qui travaille avec une autre artiste qui n'est pas en France, qui est à l'étranger et qui est chinoise. Bonjour Nîmes.
Bonjour.
Donc voilà, pour l'instant, donc Paul Clément nous rejoindra vers midi et demi, vraisemblablement. Donc évidemment aujourd'hui nous sommes bien sûr attristés comme tous par la catastrophe qui a eu lieu au Sichuan et d'ailleurs dont les soubresauts ne se terminent pas puisqu'il y a encore régulièrement des problèmes de tremblements de terre dans le Sichuan. Donc depuis le début, je pense que c'était le 12 mai, Pierre, le séisme a commencé le 12 mai, la première secousse.
Oh, hein. Oui, c'est ça.
Donc ça a été un moment très très grave puisque cette secousse a été assez énorme. Hein. On a parlé sur l'échelle de Richter de 8, je crois.
Ouais, presque 8, 7,8. Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc effectivement, est-ce qu'on peut un peu rappeler, c'est vrai que les séismes d'une manière générale sont a priori existent, se produisent dans des zones particulières du monde. En fait, ce sont des plaques qui se frottent les unes contre les autres et bien sûr qui créent des fractures, qui créent des tensions. On ne peut pas forcément les prévoir. Hein. Là, j'ai fait une petite étude sur Internet pour voir ce qu'on pouvait éventuellement... Alors, on peut observer des séismes, on peut dire qu'il y a des zones à risque, mais on ne peut pas dire que tel jour, à telle heure, il y aurait quelque chose, même si des gens ont l'impression que parfois, dans l'atmosphère, il se passe des choses un peu avant, il y a des couleurs bizarres dans le ciel, mais tout ça, c'est pas vraiment scientifique. Donc, par exemple, on a fait la demande à Michel Parot, qui est chercheur au laboratoire de physique et de chimie de l'environnement d'Orléans. Et il nous explique qu'à ce jour, il n'est pas possible d'assurer qu'il y aura quelque chose à tel moment, en tel endroit. Voilà. Donc, effectivement... Même si on peut considérer qu'il y a des perturbations dans l'ionosphère qui pourraient se produire avant les séismes, on ne peut pas en déduire que telle perturbation peut conduire réellement à un séisme. Et donc voilà, ce n'est pas évident. Par contre, des catastrophes prévisibles, il y en a, parce que c'est l'Inde qui pousse les terres des autres pays. Et donc on sait toujours qu'avec l'Inde, ça aboutit à des catastrophes. Dire aussi que on pouvait peut-être du côté chinois avant de construire bien vérifier que les normes de construction soient assurées puisque là au niveau des écoles il semble que des bâtiments aient été construits un petit peu sans correspondre à des règles qu'impose cette région du monde. Après effectivement même si des cartes infrarouges peuvent permettre l'observation de la Terre, on ne peut pas dire, et là ce sont des spécialistes américains que nous signale donc M. Parot, qui ne permettaient pas de dire quand vraiment un événement serait produit, ni avec quelle intensité. Voilà. Donc on est toujours sur des hypothèses, mais ce qui est sûr, c'est que des régions du monde sont forcément un jour atteintes par ce genre de choses, et pour y faire face, il y a certainement des précautions à prendre, et puis quand la catastrophe arrive, comme c'est le cas, eh bien, chacun essaye de contribuer à la solution. Et là, on peut dire qu'actuellement, en Chine, c'est une grande solidarité. Clément, tu peux me dire?
Parce que non seulement le gouvernement, tous les peuples chinois essayent de faire des efforts pour aider les gens qui sont, sont affectés par le séisme.
Mm-hmm.
Par exemple, beaucoup d'artistes ils vont faire un concept pour récupérer des dons pour aider les peuples en difficulté. Je sais que, par exemple, les étudiants en France, ils ont organisé une soirée pour récupérer des argent pour verser en Chine. C'est vrai que tout le monde agit agit contre cette séisme. C'est un événement que le papa peut voir en avance.
Voilà, donc vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 FM qui émet de l'Université de Lille à Villeneuve-d'Ascq en France. Donc nous poursuivons cette émission Onde de Chine aujourd'hui consacrée en partie à la catastrophe du Sichuan et après nous parlerons un peu des Jeux Olympiques. Donc une chanson, il y en a d'autres, on va en écouter une autre d'ailleurs, consacrée à la catastrophe et aussi à la solidarité, à cet élan de solidarité. On a pu en voir une démonstration sur la place Tiananmen d'ailleurs. Qui veut intervenir sur ce sujet, Pierre?
À Tiananmen.
Oui, à Pékin, il y a eu une grande fête, un grand hommage qui a été fait avec plein de chanteurs pour accueillir des dons.
Ah ouais,
pour recueillir des dons.
C'est une cérémonie pour le Jeux Olympiques, je crois.
Ah, non aussi.
Ah ouais.
Tout le monde sait que le Jeux olympiques 2008 va bientôt arriver. Mm-hmm. La Chine préparait très bien et tous les Chinois, n'importe qui, le chanteur, l'acteur, actrice, enfin mobilisé, et parce que c'est une fête pour tout le monde, surtout pour les Chinois, pour les Chinois qui exposaient son solidarité, son humanité et son vivante. Mm-hmm.
La chanson qu'on a entendue juste avant, tu peux nous expliquer, c'est Lichuan.
C'est maintenant.
On a entendu avant, c'était Lichuan, c'est ça?
C'était Lichuan.
Ouais. Tu peux me dire qui est
peut-être
Lichuan?
C'est une chanson très connue en Chine, mais oui, je ne sais pas le nom traduit en français. En chinois, c'était chanté par une très connue chanteur qui s'appelle Liu Huan.
D'accord. Et ce qu'on entend là?
Ouais.
C'est ça?
Oui, c'est ça.
Maintenant,
c'est qui?
On va l'écouter, hein, tu reviens après.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, donc peut-être quelqu'un peut nous expliquer sur cette chanson de quoi elle parle.
Nous avons l'amour envers notre corps, donc n'importe quel accident grave, on agit ensemble, parce que nous sommes solidaires.
D'accord. Mm-hmm. Donc c'est une chanson pour la solidarité.
Oui.
Et voilà. Donc comment ça se passe actuellement, l'appel à la solidarité en Chine? On a vu beaucoup d'images avec les militaires qui sont arrivés au Sichuan. On voit des équipes aussi. Il y a énormément de médecins qui sont sur place. Mm-hmm. On voit aussi arriver de l'aide internationale. Parfois, on ne voit pas trop d'ailleurs ce qui... Par exemple, j'ai vu des médecins français qui arrivaient dans des lieux où il y avait déjà... plein de médecins chinois, ils disaient, on ne sait pas trop quoi faire, il y a déjà beaucoup de médecins, donc c'est assez étonnant, quoi. Il y a une vraie mobilisation, on voit beaucoup de monde. On peut quand même rappeler qu'il y a eu énormément de morts, déjà peut-être 80 000 morts, il y a beaucoup de gens blessés, il y a énormément de sans-abri, et je pense qu'il y a un gros besoin aussi de tentes pour abriter les gens. Peut-être Jean-Louis Callens, qui est donc responsable du secours populaire pour le département du Nord de la France, peut-être nous dire s'il est au courant de cette situation en Chine et qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau du secours populaire et des autres associations humanitaire.
Eh bien oui, dès l'annonce de la catastrophe, forcément, les partenaires du Secours Populaire qui sont en Chine, c'est l'association d'amitié entre les peuples étrangers, ils nous ont appelés tout de suite en nous disant, est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que on peut faire des choses ensemble par rapport aux sinistrés? On leur a dit, bien sûr, tout de suite, il faut nous évaluer les besoins. Ils nous ont dit, alors c'est quand même des chiffres pharaoniques, hein, ils nous ont dit, la Chine a besoin aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'était il y a 15 jours, un besoin de 1 million de tentes. Oh. Et depuis... Et alors, sans compter forcément la production intérieure chinoise. Ça veut dire qu'ils ont besoin dans le pays d'importer 1 million de tentes parce qu'ils n'ont pas. Mm-hmm. Et qu'il y a des besoins. Alors on s'est dit, ben, on va lancer tout de suite l'appel, on va mobiliser les collecteurs, on va mobiliser l'ensemble de l'association Secours Populaire, sur tout le territoire français d'ailleurs, et pour qu'on puisse réunir les fonds pour acheter. On a contacté déjà nos amis, parce que le Secours Populaire, c'est une association, alors forcément, qui travaille beaucoup sur la France, mais aussi beaucoup à l'étranger, puisqu'elle travaille aujourd'hui dans 70 pays. Et on a contacté nos amis indonésiens, qui ne sont pas très loin, et qui ont des relations très fortes avec la Chine, puisque à l'intérieur de nos partenaires, il y a un ami dont ben, il est l'époux, ça tombe bien, de la ministre de l'Industrie en Indonésie. Il se rend régulièrement en Chine, et on a vu avec eux comment on pouvait acheter et surtout acheminer les tentes. Maintenant, on attend, là, ça va, à mon avis, dans quelques jours, il devrait y avoir une délégation du Secours Populaire français qui va se rendre sur place. On est en train de prêter pour pouvoir, en lien avec nos amis indonésiens, eh bien, faire parvenir et aller apporter ces tentes et ce matériel de première urgence. Je crois que c'est ça, c'est là-dessus qu'on sait. Alors, après, ils nous ont dit, mais, et puis ça, c'est aussi l'habitude du Secours Populaire, qu'est-ce qu'on va faire après? Au début, à l'urgence, et après, il y a la reconstruction. Alors, déjà, on amorce l'idée, mais pour la Fédération du Nord et du Pas-de-Calais, c'est-à-dire pour la région du Secours Populaire Nord-Pas-de-Calais, eh bien, de reconstruire une école. Voilà, on ne sait pas encore où, on ne sait pas encore bien, puisqu'il y a eu un grand nombre d'écoles qui ont été détruites. Et faire un peu comme on a fait au Cachemire, parce que, ça je retiens à le dire, c'est quand même cette région du sud-est a été beaucoup, beaucoup éprouvée ces derniers temps. Il y a eu la catastrophe il y a quelques années, tremblement de terre au Cachemire, des milliers de morts, des milliers de sans-abri. Il y a eu le Bangladesh, les cyclones, il y a eu la Birmanie tout récent. Il y a eu entre deux le tsunami. Mmh. On se rappelait, hein, 200 000 morts en Indonésie, tout Thaïlande, toute cette région a été. Et maintenant, un tremblement de terre là, dans cette région de Sichuan. Je crois que c'est vrai que ça a permis aussi d'être mobilisé sur ces questions, mais c'est quand même dramatique pour toutes ces personnes, ces enfants, ces femmes, ces hommes qui vivent dans ces régions.
Voilà. Est-ce que, Jean-Louis Calas, vous savez un peu au niveau des organismes humanitaires qui intervient en Chine actuellement sur ce problème?
Ben, si j'ai bien entendu, c'est assez compliqué. Alors on sait qu'il y a des organisations comme Médecins du Monde qui sont parties, il y a Urgence pour la faim, mais on n'en sait pas plus. Mmh. On n'en sait pas plus parce que ben, je crois que c'est tellement, le phénomène est tellement grand et tellement important, que chacun est en train de regarder ses possibilités de faire. Et puis, je redis, il y a eu, c'est 15 jours, hein, 10 jours avant la Chine, il y a la Birmanie.
Oui,
100 000 morts, et avec toutes les difficultés qu'on sait pour pouvoir intervenir. Bon, c'est pas la même chose en Chine, puisque la Chine s'est tout de suite réclamé l'aide internationale, le soutien international, et ouvert ses portes. C'est plus facile d'accéder et de faire la solidarité en Chine qu'en Birmanie. D'accord, mais c'est aussi la complexité, peut-être, de savoir qui intervient là ou pas. Mmh. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on fait cette émission, je voudrais le dire, parce que avec tout ce qui s'est dit sur les radios, dans les médias, les journaux, etc., sur la Birmanie, sur la Chine avant, ça fait que ça a ralenti un peu l'élan de solidarité. Et il y a suffi qu'à la télévision, parce que c'est comme ça, hein, à la télévision, on commence à voir des images dramatiques en Chine pour que il y a un retour et qu'il y a des gens qui prennent conscience et disent, ah, on peut faire quelque chose, on peut aider, on peut soutenir. Chose qui avait été négatif avec la Birmanie, puisque je me souviens encore la déclaration du ministre Bernard Kouchner qui dit la catastrophe de la catastrophe, c'est que le gouvernement birman il refuse l'aide humanitaire. Alors, ce qui fait que ça a freiné complètement les dons, même si on expliquait qu'on a des partenaires.
Pour expliquer un peu comment se passe l'aide humanitaire, quand on dit refuser l'aide, ça veut dire refuser ce qu'on donne ou refuser la façon dont c'est donné?
Non, c'est l'interprétation, hein, puisque pour les Birmans, c'est refuser la façon dont c'est donné.
Alors c'est quoi la façon dont c'est donné justement? Parce que on peut imaginer, bon, on donne quelque chose, on le donne ou on le donne pas, quoi. Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles on donne les choses? Est-ce qu'on a des exigences en termes d'organisation humanitaire? Lesquelles?
Ouais, je crois. Puis il y a aussi méfiance. Il y a aussi la méfiance de ce qui peut arriver et qui n'est plus du tout contrôlable par les associations, par les gouvernements. Alors, bon, c'est peut-être pas le cas en Birmanie, quoique il y a eu quelques troubles il y a quelques mois hein, de ça en Birmanie. Et pour vous citer l'exemple du Sri Lanka, dans le cas du tsunami, il y a eu Sri Lanka, il y avait une guerre qui dure depuis longtemps d'indépendantistes avec le Nord, la région Tamoul, etc. Et quand il y a eu tsunami, il y a eu des conteneurs qui sont arrivés, on a prétexté l'aide humanitaire, avec des armes dedans. Mmh. Et donc, à mon avis, tout ça se sait, et forcément, il y a aussi des retenues en disant, oh, attention, il faut qu'on puisse voir ce qui arrive. Moi, c'est légitime, d'ailleurs. Alors, c'est pas légitime de dire on refuse tout, on laisse les associations, mais on fait pas n'importe quoi. Je crois qu'il faut le faire en accord. Enfin, ça, c'est la politique du secours populaire. Mm-hmm. À chaque fois qu'on intervient dans un pays, on le fait toujours en accord avec les autorités.
Alors, si on va un peu plus loin, qu'est-ce que c'est la différence entre l'assistance et l'ingérence? Est-ce qu'il y a une frontière, une limite bien nette?
Bien sûr. Pour ça, je dis, l'assistance, elle peut se faire qu'avec l'accord. Parce qu'on ne peut pas définir les zones où il y a le plus. C'est quand même... c'est les gens sur place qui vont décider, et surtout et en particulier les autorités, qui vont dire, attention, là il y a priorité, là il y a des choses à faire, là il y a des choses à pas faire, il faut le faire autrement. Parce qu'on ne connaît pas de toute façon les cultures, on ne connaît pas les coutumes, et puis les besoins surtout. Donc quand on arrive, à mon avis, il faut qu'on prenne conseil auprès des autorités, et pas de dire tout de suite, de pas de faire comme... Beaucoup font, hein, ça c'est. Ah, oh là là, là, là ce sont les autorités, ce sont les dirigeants, on va pas les voir parce qu'ils sont partisans de quelque chose. Non, mais je pense qu'il faut faire confiance. Enfin, imaginons en France qu'on vient de nous aider, il y a une catastrophe, sans nous demander notre avis, sans faire. Ah, ça, c'est incroyable, c'est impensable d'ailleurs. Et il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas, que les Français et les autres le fassent pas.
Donc là, en l'occurrence, en ce qui concerne la Chine, le Sichuan, le gouvernement a structuré, organisé les secours et l'aide humanitaire vient accompagner. C'est un peu ça.
Exactement. On peut même pas imaginer en France, tiens, Jean-Louis Canin, s'il débarque avec un avion...
Ou un parachute.
Il débarque un avion avec 10 000 tentes. Où il va les conduire, à qui il va les donner, comment il va les donner. C'est pas possible. Il faut qu'il travaille avec une association sur place, d'accord, mais en même temps qu'il y a le soutien et l'accord des autorités. D'abord, c'est impensable. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et y compris, en plus, il y a cette dimension accord avec les autorités, mais aussi, même si le Secours Populaire est une ONG, organisation non gouvernementale, eh bien, à chaque fois qu'elle se rend dans un pays, son premier interlocuteur, c'est aussi l'ambassade de France. Parce qu'il faut prévenir, il faut dire ce qu'on fait, comment on fait et avec qui on le fait. C'est des choses normales, ça.
Bon, en plus, le fait d'envoyer des personnes là-bas qui aident, ça suppose aussi bien tenir compte des risques, parce que, je veux dire, le séisme, bon, on a eu déjà plusieurs secousses, il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres, enfin, on souhaite que ça s'arrête, bien sûr, mais il y a forcément un danger pour les sauveteurs aussi, qu'on prend en compte.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut prendre tout en compte et qu'il faut qu'on fasse très attention. Alors, la pratique, je le rappelle aussi, du secours populaire, elle est de ne pas envoyer des équipes. On n'envoie pas les équipes pour travailler sur place, pour faire, puisqu'il y a quand même des gens qui sont compétents et qui font. Pour la Chine, il y a des Chinois, des gens de la région qui savent faire. Vous disiez tout à l'heure, il y a les médecins, pas la peine d'envoyer les médecins. Non, c'est pas la peine. Mais puisqu'il y a les médecins. Mais en même temps, il faut qu'on puisse travailler, apporter la solidarité. Et l'objectif, la raison d'être du secours populaire, c'est de travailler en partenariat, toujours en partenariat, avec des associations locales. C'est ce qu'on appelle la, Ben oui, on agrandit le réseau et on fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'elle est présente dans 70 pays, mais ce n'est pas des présences françaises dans le pays, ce sont des associations partenaires avec qui on est en relation et avec qui on contacte régulièrement.
Bon, c'est vrai que le sport populaire doit connaître les Chinois depuis très longtemps.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quoique ça n'a pas été toujours facile parce que pendant toute une période, la Chine a refusé les aides internationales. Je me souviens quand il y a eu des grandes catastrophes dans les mines de charbon, etc., il y a une dizaine d'années, on va dire une dizaine d'années. Hein. C'était compliqué, on ne sait pas pourquoi. Et il a fallu qu'un jour on dise, mais on y va quand même. On y va, on est allé et on a rencontré les autorités, on s'est expliqué. Et je crois qu'on s'est expliqué sur ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire sur un partenariat et non pas une assistance. Et ce que j'ai pu remarquer dans les 2-3 voyages que je viens de faire là en Chine, c'est que les Chinois, ils sont très attentifs à cette notion de partenariat. C'est-à-dire on fait les choses d'égal à égal.
Voilà. Voilà, et je pense que si un jour on a une catastrophe en France, on pourra aussi compter sur les Chinois pour nous aider.
Et je suis persuadé qu'ils nous aideront.
Voilà. Ouais. Alors, pour contacter le Secours Populaire, c'est très simple. Hein, je suis allé sur un moteur de recherche, j'ai tapé « Secours Populaire Chine ». Et là, on est sur la page d'actualité sur le séisme en Chine et qui explique le résumé de la situation et aussi comment effectuer un don, donc soit par courrier au Secours Populaire Français, boîte postale 3303, 75-123 Paris CEDEX 03, mais aussi en ligne, par chèque ou carte bleue. Il suffit d'aller sur le lien et puis tout se fait automatiquement.
Oui, et aussi plus près de chez nous, hein, parce qu'il y a le 18-20 rue Solferino, 18-20 rue Cabanis à Lille, où on peut être plus près et aussi on peut faire les dons, là, on peut verser directement.
Alors c'est vrai que si on va chez vous, vous faites un reçu pour ceux qui éventuellement peuvent le déduire de leurs impôts.
Et oui, tout à l'heure on en parlait, on disait, ben oui, c'est les moments, les feuilles d'impôt, ben ça tombe bien, hein, ça, c'est en même temps, alors c'est malheureux qu'il faut payer les impôts, il faut toujours payer.
Ben, heureusement qu'on en paye pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en payer.
Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, c'est une piqûre de rappel, parce que ces feuilles d'impôt aujourd'hui, ça veut dire, ah, il y a une catastrophe en Birmanie, il y a une catastrophe en Chine, on peut faire, et on va être exonéré d'une grande partie, presque 70%. Et jusque 450
donc ça,
euros.
Ça, ce sera pour votre feuille d'impôt de l'année prochaine.
Pour l'année prochaine, ouais.
Mais
il faut y penser.
C'est toujours utile.
Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Cazenave. Vous restez avec nous, bien sûr. On va poursuivre donc sur cette actualité. Une réaction au propos de Jean-Louis Cazenave de la part des étudiants chinois? Est-ce que, Pierre, tu veux rajouter quelque chose sur l'actualité? Tu suis l'actualité de près en Chine? Tu vois les émissions sur la Chine? Tu vas sur le web voir un peu ce qui se passe?
Sur le séisme, non?
Oui, oui.
Ouais, ouais. Sur le séisme, c'est une très grave catastrophe pour la Chine, pour les Chinois, pour tous les Chinois. C'est le plus grave de séisme depuis 30 ans. Il y a 10 000, presque 80 000 morts. Il y a beaucoup de gens qui perdent sa famille, sa vie. C'est une catastrophe. Mais sur cette séisme, sur cette catastrophe, on peut voir les Chinois qui exposaient solidarité. C'est une nation très vivante, très courageuse. Et aussi pour les Chinois, je crois que tout le monde sait que les Chinois, c'est une bienveillance, oui, pour donner son argent, n'importe qui, n'importe où de Chinois qui aide les gens qui au séisme, qui est touché par séisme. Et aussi, le gouvernement chinois, d'accord.
Vas-y, vas-y.
Le gouvernement chinois, qui est très fort dans cette catastrophe pour faire une très bonne réponse. Je pense que c'est ça. Il y a le chef de gouvernement qui est dans la région de séisme, et 10 millions, 100 millions de soldats, de militaires
pas, qui viennent. Pas 100 millions quand même.
Ah, bah, 100 000, ouais, excuse-moi. Et aussi, une très importante, c'est le Chinois qui permet des aides internationales et faire une reportage très transparent.
Est-ce qu'il y a des chaînes de télévision au Sichuan?
Les chaînes de télévision
au Sichuan?
Oui. Il y a beaucoup de chaînes de télévision de Sichuan, mais peut-être pendant la catastrophe, pendant le séisme, on ne peut pas continuer à faire le chaîne.
Oui, il y avait aussi des difficultés pour téléphoner, c'était bloqué un bon moment aussi. Hein.
Oui, vous le savez très bien que pour le séisme, c'est une très grave catastrophe. Après le séisme, il y a une série de catastrophes, une inondation et des épidémies, ça veut dire
les contagions.
Oui, c'est ça. Pour le séisme qui a causé beaucoup de une série de catastrophes, et donc on va faire continuer d'aider et de reconstruire ou de faire de réponses des séismes.
Alors, nous a rejoint Yang Yang. Bonjour Yang.
Oui, bonjour.
Donc, qui est étudiant chinois et qui est à Lilin et qui est donc s'occupe actuellement d'une association qui s'appelle Ch'ti Chinois Lilin.
Oui, l'association Ch'ti Chinois à Lille, oui.
Et donc, bien sûr, les associations, il n'y en a pas beaucoup d'associations chinoises hein, dans la région.
Non, je crois.
Non. Donc, c'est peut-être une des premières associations étudiantes chinoises, sinon en France, du moins dans notre région.
Oui, c'est vraiment une initiative, quoi. On peut dire. Enfin, d'après ce que je sais, il n'y en a pas beaucoup d'associations comme nous. Faisant des choses comme ça, ouais.
Et je pense que vous êtes en train d'étudier comment élargir cette association à d'autres universités.
Oui, je suis en train. Je suis chargé d'être une mission pour élargir ce monde d'une cette association, parce qu'on est vraiment au départ du développement de cette association et on n'a pas vraiment construit une structure assez compétente pour faire des choses. Cette fois-ci, sur le séisme aussi, on a eu la volonté pour recueillir les dons. On a voulu faire savoir beaucoup de gens sur cet événement, mais on n'a pas pu vraiment faire ce qu'on a. On a prévu ou on a voulu. Donc c'est vraiment dommage et je crois qu'il faut qu'on développe plus pour qu'on puisse faire toutes ces choses ultérieurement.
Bon, c'est vrai que les étudiants en ce moment sont quand même très pris, soit par leurs études, soit par leurs stages, leur mémoire à rendre.
C'est une période
complexe. Hein.
Mais ce qui est heureux pour moi, c'est que même si on est tous occupés pour les choses individuelles, mais on a tous les yeux fixés sur ce séisme en Chine actuellement. Et tout le monde est vraiment. Tout le monde s'inquiète vraiment sur les gens victimes et sur la région qui est détruite complètement, presque complètement par le séisme. Donc c'est quand même un phénomène heureux, je crois.
Mm-hmm. Voilà, donc je vous rappelle pour le Secours Populaire, n'hésitez pas, vous allez sur place à Lille, au siège donc départemental, ou vous allez sur le site web du Secours Populaire, Secours Populaire Chine, sur votre moteur de recherche. Voilà, on va accueillir dans quelques instants Nîmes, donc, qui est compositeur, et donc qui nous parle notamment de son dernier CD, et puis aussi de ses relations avec la Chine. Vous êtes sur Radio Campus, 106,6 FM, dans l'émission Ondes de Chine. Donc un aperçu, mais c'est vraiment un modeste échantillon d'un CD qui est paru et qui contient beaucoup de sons, beaucoup d'impressions et donc de la musique, des paroles. Donc on va peut-être expliquer, Nîmes, comment a été conçu cet album.
Mais en fait, essentiellement par l'intermédiaire d'échanges sur le net, on peut dire ça comme ça. Le concept de l'album, c'est de parler de Pékin, une ville que moi j'aime énormément. Je trouve que c'est une superbe ville, elle m'a vraiment beaucoup marqué. Et de l'autre côté, il y a la chanteuse et écrivaine Pai Yuling qui écrit des textes très ancrés sur l'actualité et qui a étudié à Pékin, qui connaît très bien la ville, voilà. Et sur cet album-là, on avait vraiment envie d'en parler parce que il y a beaucoup de choses à en dire, il y a beaucoup de lieux à y découvrir encore maintenant, même si la ville a terriblement changé ces dernières années. Voilà, elle est toujours très très riche, et donc l'album en fait est une sorte de compilation de tout ce qu'on avait ressenti quand on y a vécu, en fait. Voilà.
Voilà donc un album, donc un CD qui s'appelle Nous. Nous, c'est deux.
C'est même plus que ça. Oui, on voulait parler de nous, les Chinois, de manière générale. Mm-hmm. En chinois, c'est Zhangsheng. Donc c'est vraiment la globalité de l'humanité chinoise, quoi, pour expliquer ça comme ça.
Alors, Tu es déjà venu dans les émissions de Radio Campus présenter ce disque et peut-être des épreuves précédentes,
on va dire, des travaux précédents.
Je vois Françoise Objoie qui est derrière la vitre, qui interviendra à 13h et qui t'a déjà accueilli, bien sûr.
Absolument, oui.
Avec l'émission donc Bruit de Chine, qu'on retrouve régulièrement chaque mois. Et donc il traite de sujets sur les rapports entre la France, la Chine, la façon de voir la Chine par différentes personnes qui y ont vécu ou qui travaillent ou qui ont voyagé ou qui ont quelque chose, qui ont établi des liens. Donc effectivement cet album a été diffusé à partir du mois de janvier, février,
oui, c'est ça, hein, c'est ça exactement.
Alors quel est son devenir, sa carrière,
hein? À l'heure actuelle, on est très diffusé sur le réseau de l'affaire Arok, en fait. Donc ça représente 25 radios sur la France, à peu près partout en France. Et donc on est diffusé en programmation générale sur 11 de ces radios. On a déjà passé 5 partenariats des opérations spéciales pour faire gagner un CD NAOS par jour pendant une semaine avec différentes de ces radios-là. La diffusion se fait vraiment bien. On a ce qu'on appelle des rotations fortes pour des radios indépendantes, c'est-à-dire qu'il y a 3 à 4 diffusions par jour. Donc pour nous, c'est très important. Ça fait partie des... L'album en récolte quelque chose qu'on n'avait pas réussi à obtenir jusqu'à maintenant, une vraie écoute et puis beaucoup d'émulation sur le MySpace, en fait. Chaque fois qu'on passe en émission spéciale, je dirais, sur un réseau radio quelconque, on a toujours des messages sur ce MySpace. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le séisme au Sichuan. En fait, dans nos amis MySpace, on a un artiste chinois de Singapour qui s'appelle Sonic Brat, qui offre gratuitement un de ses albums en échange d'un don auprès de la Croix-Rouge singapourienne, qui a été une des premières à pouvoir y aller avec des groupes japonais, coréens et autres, et à aller sur place justement pour donner des tentes. Donc en fait, si vous voulez faire un geste, vous allez sur notre MySpace, dont c'est myspace.com/nonaos, N-O-N-A-O-S, et vous y retrouvez Sonic Brat. En cliquant dessus, vous arriverez directement sur sa page et il explique absolument tout ce qu'il faut faire pour faire un don, si vous en avez envie, par ce biais-là également, en plus de faire un don pour le Secours Populaire, par exemple.
Voilà, donc sur MySpace, Naos, N-A-O-S.
Voilà.
Alors, nous sommes toujours avec nos invités. Alors, Jean-Louis Callens est encore avec nous et va nous présenter donc quelqu'un qu'il connaît bien.
Oui. Alors, il y a notre ami Paul Clément, hein, c'est oui. Ça, oui, qui va faire partie de cette, je ne vais pas dire délégation, mais si, on peut dire importante, puisqu'il va y avoir 30 personnes qui vont se rendre dans le cadre d'un projet humanitaire à Pékin.
Bonjour, Paul Clément.
Bonjour.
Donc tu es pongiste?
Oui, au FOS Villeneuve-d'Ascq.
Voilà, donc à Villeneuve-d'Ascq. Et tu as été sélectionné?
Oui, par la mairie et le Secours Populaire.
Pour faire?
Pour faire une action humanitaire en Chine.
D'accord.
Dans la banlieue de Pékin, dans les villages près de Pékin.
Donc là on n'est pas dans le cadre du séisme, hein. C'est une autre mission humanitaire que tu peux peut-être présenter.
C'est un projet pompe à eau. En fait, on va à la rencontre des villageois qui habitent dans certains villages, plus défavorisés que d'autres, et on installe des pompes à eau pour l'eau courante, qui n'ont pas, forcément.
D'accord. Jean-Luc Callens, l'idée de cette mission?
Oui, Ça remonte à un an et à l'idée du secours populaire, puisque il est allé à Athènes avec des jeunes, il a plusieurs fois aux Jeux Olympiques, tous les 4 ans, on se dit pourquoi pas envoyer des jeunes sportifs. Et là, on a dit Pékin. Et donc, Pékin, on l'a rencontré à Pékin, les amis chinois avec qui nos partenaires depuis quelques années, ils nous ont dit, mais c'est bien, Pékin, on veut bien, mais les Jeux Olympiques, c'est sympa. Essayer de regarder si on ne pourrait pas faire autre chose. Et là, les choses, au départ, c'était dans solidarité avec, autour de l'eau. Hein, ils nous avaient dit, parce qu'on a des problèmes d'eau, etc. On n'avait pas bien compris. Et pour finir, je suis revenu il y a 3 semaines, on est allé dans le Gansu. Et ils nous ont expliqué qu'il y avait des paysans, qu'ils avaient beaucoup, beaucoup besoin d'eau pour cultiver, pour leur vie, et qu'ils ne pouvaient pas accéder parce qu'il fallait creuser, il fallait faire des forages à 700 mètres de profondeur, puisque c'est sur les hauts plateaux.
Pierre va peut-être nous expliquer, le Gansu, c'est dans quelle région de la Chine ?
C'est Gansu.
Oui, c'est où ?
Gansu. Ah ouais, c'est presque de Sichuan, c'est dans la région de... nord-ouest de la Chine. C'est juste presque de Sichuan.
D'accord, merci pour cette précision. Jean-Louis.
Oui, alors, on est allé visiter, on est allé voir, parler avec les paysans, et c'est vrai qu'il y a un énorme problème d'accès à l'eau. Hein. Forage impossible, et la seule solution, c'était de faire... Alors, je ne voyais pas ça comme ça du tout, hein, et c'était de faire des grandes réserves d'eau de pluie, parce qu'il pleut quand même une grande partie de l'année, pour que les gens puissent, avec l'eau, la filtrer, consommation personnelle, et aussi aller arroser leurs champs. Alors, on s'est dit, bien, on va faire un projet. Au départ, on était parti sur 1000 installations d'eau, et quand on a vu l'énormité, on a dit, on va en faire 100. 100, ça veut dire qu'il y a 100 familles qui ont été sélectionnées par le gouvernement régional du Gansu en disant, ben voilà, ces gens, ils ont des grandes difficultés, ils ne peuvent pas prendre en charge la partie qu'on leur demande pour accéder à l'eau, pour réaliser ces installations d'eau, alors ce serait bien que le secours populaire y participe. Alors, je rappelle parce que une installation d'eau comme celle-là aujourd'hui dans une maison, ça coûte 2 500 €. Le gouvernement régional, eh bien, il prend à charge 90% et il laisse 10% en charge des gens. Et forcément, eh bien, il y a des familles qui peuvent pas du tout payer ces 10%. Et c'est là qu'on intervient aujourd'hui, en accord avec eux, sur l'installation d'eau. Et nos amis, puisque je disais la petite délégation, il va y avoir 30 personnes et il va y avoir 18 jeunes sportifs méritants, puisque... notre ami est un sportif, il est un pongiste, un méritant. Ils nous ont dit au club, on peut l'envoyer parce que. Et puis c'est bien pour lui et pour les autres aussi. Donc on a décidé que visite pendant les Jeux Olympiques, visite, regarder des épreuves sportives, rencontrer des sportifs, mais aussi rencontrer des jeunes chinois, puisque dans le Gansu, à Pékin et dans d'autres villes, il va y avoir d'énormes rencontres avec des jeunes sportifs de même discipline. Il va y avoir des rencontres sportives, mais il va y avoir aussi cet intérêt pour cette eau. Et puisque les installations sont commencées, on va voir avec nos jeunes pour qu'ils puissent aller visiter là-bas sur place et parler aux paysans et regarder. Et en disant, c'est nous qu'on a offert. Alors pourquoi je dis c'est nous qu'on a offert ? Parce que dans le programme, on a demandé et on demande à tous les clubs sportifs, il y a 18 clubs sportifs intéressés, d'organiser 100 rencontres sportives dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Alors 100 rencontres sportives pour financer à chaque fois une installation d'eau qui coûte 250 €. C'est pas beaucoup, mais quand on fait une rencontre, quand on vend du coca, on vend des choses, des badges, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des entrées, on peut récupérer facilement ces 250 €. Et au moins, ça veut dire les jeunes auront dit, moi, j'ai participé avec mes petits copains, avec mon club, à l'installation, à faire plaisir et à faire vivre surtout ces paysans dans le Gansu. Je crois que c'est quelque chose de... Et ça va encore plus loin, parce que dans le cadre de la réflexion, aujourd'hui, on parle de crise alimentaire, déficience alimentaire, que ce soit des céréales, que ce soit tout ce qu'on peut imaginer, riz, céréales. Et eux, ils vont participer dans cette région à faire en sorte qu'on puisse cultiver aussi des régions assez arides où c'est difficile à faire planter si on n'a pas d'eau.
Très bien, merci pour ces explications. Une remarque, un commentaire, qui veut prendre la parole sur ce sujet?
Tout d'abord, je vais remercier les amis français, les aides des amis français. C'était gentil. C'est surtout, en fait, c'est une très gros problème de la Chine, pour, surtout dans la région nord-ouest de la Chine. Il n'y a pas beaucoup de pluie sur celui-là. Les paysans, surtout les paysans, manquent de l'eau, mais l'eau très chère. En fait, maintenant, j'ai fait le stage sur ce sujet, sur pour récupérer de l'eau. Le stage, c'est une entreprise. Comment dire, l'eau, c'est très important pour les gens, mais maintenant, il n'y en a pas beaucoup. C'est, surtout dans les régions, pas beaucoup de pluie, pas beaucoup de rivières, c'est ça. Et donc, merci beaucoup des amis français pour aider les paysans chinois.
C'est très gentil. Paul Clément, donc, tu t'es préparé à aller en Chine? Comment tu envisages les choses?
Bah, tout d'abord, par rapport avec le club, on va faire un tournoi sportif pour dire de récolter un peu de fonds. Et après, pour le voyage, j'ai pas trop encore pensé.
En fait, c'est quand le départ?
Je pense que c'est le 8 août. Le 9.
9 août. Hein. Voilà. Et le retour?
18,
voilà.
18 août. Donc l'idée, c'est d'aller à Pékin quand même un peu?
Oui, un peu, mais surtout de faire un acte humanitaire.
Voilà, donc c'est... repasser après par cette région, peut-être?
Oui, pourquoi pas, ça peut être... Ça peut toujours être faisable.
Tu as un peu une connaissance de la Chine ou pas?
Un petit peu, oui.
Ouais. Ça t'inspire quoi, comme pays?
La Chine, c'est... Bah... La culture asiatique avant tout, c'est vraiment le plus gros pays du monde, donc toute la culture asiatique, tout ça.
Donc tu n'es jamais allé encore?
Non, jamais.
Ça va être une grande découverte.
Oui, c'est inconnu.
Très bien. Ben, en tout cas, merci Paul Clément, et puis donc bon voyage, et puis aussi amène nos amitiés au peuple chinois.
Merci, à vous aussi.
Donc Nîmes, on est en train d'écouter ton album là, donc on entend différents bruits, différents mixages avec des sons soit naturels on va dire, soit de la rue, des sons vivants et puis aussi de la musique électronique, ça s'est composé comme ça.
Voilà, exactement. Il y a une partie du travail qui a été d'enregistrer les sons en stéréo sur Pékin en fait, dans différents endroits où je savais de mémoire trouver des éléments auditifs particuliers à enregistrer. Ensuite il y a le travail d'écriture que Ling mène en fait, on discute ensemble de sujets d'actualité chinoise et on finit par faire un choix sur ce qui nous semble le plus intéressant et le plus vivant, réactif, parce qu'on ce qu'on aime beaucoup montrer, c'est à quel point la Chine est un pays vivant et réactif. Pour moi, c'est un des pays les plus actifs à l'heure actuelle sur la planète. Et il y a des choses aussi qui changent énormément, notamment le séisme. C'est la première fois qu'on a pu voir autant de réactions à la télé, autant de reportages sur le séisme. Bon, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très vivant. Donc, on choisit des sujets sur brûlants d'actualité, on va dire. Et ensuite, elle se met dans son studio, elle s'enferme, elle écrit son texte après en avoir discuté. Elle me le renvoie et ensuite on choisit un canevas d'écriture. Quel type de son on va mettre autour? Un son électronique, quel personnage il va représenter? Un son nature? Enfin voilà, on essaye de placer nos personnages comme dans un film. Il y a tel et tel personnage. Il y en a un qui va parler par la voix de Ling et il y a les autres qui vont s'exprimer par du son en fait. Voilà. C'est comme ça qu'on interagit par internet, donc toujours échange de fichiers, de mails, de super liens, de tout un tas de choses comme ça pour finir par donner ces morceaux.
Voilà, donc un morceau à écouter sur Radio Campus et sur plein de radios, Ferrarock et d'autres en France ou voilà. À l'étranger.
Voilà.
En Chine, on a connaissance de ce disque ou pas?
Alors, oui, on commence parce qu'en fait, on a un MySpace chinois. C'est myspace.cn/nuo. Et il y a de la musique qui est diffusée là. Et puis il y a déjà quelques envois de CD promotionnels en Chine. On recherche une distribution numérique là-bas à l'heure actuelle.
Voilà, l'appel est lancé. Merci à tous d'être venus donc dans le cadre de cette émission spéciale Ondes de Chine. Et très bonne journée à toutes et à tous.
Merci.
Quelques instants, ce sera Traverse avec Françoise Abjoie et ses invités.